بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir d'être présents dans cette assemblée pour étudier un des noms d'Allah Azza wa Jal, Ash-Shakur. Et on avait vu que parmi les définitions de Ash-Shakur, le reconnaissant, c'est qu'Allah Azza wa Jal rétribue l'être humain beaucoup plus que ce qu'il mérite normalement. Pour une petite quantité de bonnes actions, Allah nous accorde une montagne de récompenses. Deuxièmement, Allah rétribue l'être humain pour des actions qu'il accomplit parfois sans se rendre compte que spirituellement, cette action est importante. Exemple, venir en aide à une personne, enlever un objet qui obstrue le passage. Deuxième point. Troisièmement, on a vu que Ash-Shakur, c'est celui qui accepte les actions du serviteur à partir du moment où il les a formulées dans son cœur. Le niya. Demain, après-demain plutôt, c'est jeudi. Waïs a fait niya jeudi, Inch'Allah, je vais jeûner. Avec un subh sadiq qui est waouh, très tôt, mais dit que jeudi, Inch'Allah, je jeûne. Il a formulé l'intention mardi à 21h à 20h45. La récompense du jeûne, du somme, est déjà inscrite dans son livret d'action. Et il le verra le jour de Qiyam. Tout ça, ça découle de ce nom d'Allah, Ash-Shakur, le reconnaissant. Et on a dit, je le répète, on le dit à chaque fois, quand on dit Ash-Shakur, ce qui vient d'Allah, ça n'a aucun rapport avec Ash-Shakur des êtres humains. La reconnaissance de l'être humain et la reconnaissance du Seigneur, ce sont deux choses totalement. C'est pas la même dimension, mais c'est un terme qui nous permet de comprendre de quoi il s'agit. Ash-Shakur, c'est celui qui accepte le pardon de son serviteur malgré des années de péché ou malgré des montagnes de péché. Avec un istighfar, quelques mots de demande de pardon sincère qui vient de l'être humain, Allah est capable de pardonner des années de péché. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Je vais éteindre le ventilateur. Allah ybarifik. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et on a vu également Ash-Shakur. Je reviens sur l'histoire de l'intention. C'est celui qui connaît ton intention et te rétribue avant même que tu accomplis l'action. C'était ça le bon ordre. Et lorsqu'on a étudié ce nom d'Allah, Ash-Shakur, on se rend compte que ce nom englobe d'autres qualités. Ce sont les qualités d'Allah en rapport avec sa clémence. Ça a un rapport avec Al-Karam. Et Al-Karam, c'est la générosité. C'est par sa générosité qu'Allah rétribue et donne beaucoup. Ça englobe également Al-Rani, celui qui est riche. Parce que quand Allah décide de donner un serviteur 700 fois plus que ce qu'il mérite, en termes de récompense, et on avait vu la métaphore de la sourate al-Baqarah, l'épi de blé, ben c'est qu'Allah a un trésor immense et illimité. Ça englobe également le sifat de maghfira, car Allah pardonne des années et des années de péchés, même les péchés les plus graves. C'est un rapport également avec le nom d'Allah, as-sabur, Allah qui est patient. Parce qu'Allah peut laisser un serviteur le désobéir, aller dans le mauvais chemin, mais accepter quand même qu'il revienne à un moment donné. Ce n'est pas un Seigneur qui sévit et qui punit immédiatement à la moindre erreur. Autrement, il n'y aurait plus un seul être humain, un seul être vivant sur terre, sachant que nous accomplissons tous des péchés et que très souvent, nous décevons notre Seigneur par nos décisions, par nos paroles, par des péchés du quotidien, consciemment ou inconsciemment. Mais Allah est patient.
Et cette patience, là aussi, ça n'a pas de rapport hein, avec la patience de l'être humain. As-sabur, on verra, c'est un nom d'Allah qu'on étudiera plus tard. C'est qu'Allah laisse et ne sévit pas, ne punit pas, mais donne le temps à l'être humain de revenir vers lui. Et puis, il y a un rapport également avec Al-Latif, le bienveillant, parce que on avait lu, c'était le dernier texte qu'on avait lu, il me semble que ça date du 8 octobre, donc ça fait à peu près un mois, où on avait lu que « فَمَا أَصَابَ الْعِبَادَ مِنَ النِّعَمِ وَدَفْعِ النِّقَمِ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَضْلًا مِنْهُ وَكَرَمًا » Lorsqu'un serviteur obtient un bienfait, ou alors si le serviteur est épargné d'une difficulté qui devait l'atteindre, comment est-ce qu'on se protège des épreuves ou des difficultés? Il y a Oaisu. Oui, une action qui éloigne les balas et les choses difficiles. La sadaqa. On a un cheikh ici. La source c'est la sadaqa, l'aumône. La sadaqa éloigne les, je ne vais pas utiliser le terme malheur, mais les difficultés qui peuvent nous toucher. Donner la sadaqa pour nous, donner la sadaqa au nom de notre famille, au nom de nos enfants, ça c'est la meilleure des préventions. Et donc quand Allah te protège également d'une difficulté, tout ça, ça émane de sa clémence, de sa générosité, de son karam, de sa générosité. Wa in na'am, wa in na'amahum. Ça vient de quelle forme ça? Na'amahum. Hein, fa'ala. Quelle forme? Deuxième forme. Si Allah accorde des bienfaits à un serviteur, ça vient de sa gentillesse et de sa bonté. Wa in 'adzabahum fa bi'adlihi wa hikmati. C'est très beau ça. Et si Allah décide de sévir un serviteur, cela émane de sa, de son équité, de sa justice et de sa hikma, de sa sagesse. Et là, Salih se pose la question, mais, astaghfirullah, c'est pas une question profane. Quelle sagesse divine dans le fait qu'il m'arrive quelque chose? Quelle sagesse divine, Luqman peut se dire, dans le fait que je tombe malade ou qu'il m'arrive tel problème? Ben, sache, nous devons tous le savoir, que lorsqu'Allah envoie une difficulté, une épreuve, c'est que derrière cette épreuve, il y a quelque chose de profond pour son serviteur. Et le cas de Ali, de Luqman, de Salih, de Uwais, de Zakaria, de Hudhaifa est différent. Chacun, c'est un dossier. Et Allah connaît chacun de ses serviteurs. Et Allah traite chacun de ses serviteurs en fonction de l'idée qu'il a de lui. D'où l'intérêt d'apprendre et de connaître les noms d'Allah. D'accord? Au moins, on aura une idée, on aura, on va dire, une approche et une connaissance extrêmement positive de notre Seigneur, et on aura donc l'espoir en lui. Et si on a espoir en lui, Allah il va agir avec nous de cette façon. Mais Allah connaît également chaque serviteur en fonction de ses faiblesses, de ses manquements, de son passé, ainsi de suite. Et donc chacun aura une épreuve différente en fonction de son niveau et des besoins, également des manques à combler. Si je donnerai un exemple fictif, Imran, qui n'est pas ici, c'est un nom, hein, un prénom. Si Imran, par exemple, revient d'une longue période d'égarement, de différents péchés, ben, il est possible qu'Allah, dans sa sagesse, l'éprouve par un degré de ibtila, une épreuve qui est assez lourde, qui sera différente de l'épreuve qui touche l'autre personne qui, lui, a commis très peu de péchés. Et pourquoi ce Imran est beaucoup plus atteint? Parce qu'il a 3 années, 4 années de péché, mais il faut que tout ça sorte de son livret de compte. Voilà, il faut que ces péchés-là sortent de son livret de compte. Parce que c'est sa piété et sa soumission à Allah n'a pas atteint un degré suffisant pour qu'il demande istighfar comme il le faut, c'est-à-dire le tawbatun nasuha. Il n'arrive pas à soumettre son cœur 100%, à demander tauba et à regretter et à faire niyat de ne plus retomber, de ne plus recommencer le péché. Donc Allah, Rabbul Izzah, et Allah connaît mieux, envoie une épreuve et cette épreuve va le laver de ses péchés. C'est-à-dire que ces péchés-là doivent sortir de son livret de compte. Pourquoi? Afin que lorsqu'il rencontre Allah, Azza wa Jal, il rencontre son Seigneur sans ce péché. Imaginez que la personne rencontre Allah Rabbul Izzah, na'oud billah, avec 10 joies de zina, 10 joies d'adultère, la hawl wa la quwwata illa billah. Et que dans ce dunya, Allah envoyait une telle épreuve qui était lourde, qui était difficile, mais la personne n'en sait rien. Elle était patiente, attendue, et elle a obtenu l'aide d'Allah avec les doigts et tout. Mais à l'issue de ce mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de maladie, de difficultés ou autre, ben, les 10 joies de zina ont été pardonnées par Allah. Et Allah seul le sait, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Ça, c'était le pardon de tel péché. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Mais là où on veut en venir, c'est que quand Allah envoie une épreuve, c'est par sa hikmah. Et où est la sagesse? Allah seul le sait. Mais comme Allah nous connaît mieux que nous-mêmes nous connaissons, ça veut dire quoi ça? Allah nous connaît mieux que nous-mêmes nous connaissons. Ça veut dire qu'il est possible que moi, dans ma vie, on va dire en 1997, j'accomplis un péché. Mais j'ai totalement oublié ce péché. Donc, j'ai oublié que ce péché fait partie de moi. Il fait partie de moi dans quel sens? Il fait partie de moi, c'est-à-dire il est là, dans mon livret de péché. Il y est. Depuis 1997, depuis 1975, depuis 1960, et Allah seul le sait. Et Allah connaît lui, et moi j'ai déjà oublié. Et Allah sait que ça, il faut enlever avant de quitter ce dunya. Donc, c'est ce que le mu'allif, l'auteur veut dire. وَنَعَذَّبَهُمْ فَبِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ. Et toutes les louanges lui reviennent dans toutes les circonstances de notre vie. Donc, quand je comprends, ou j'essaie plutôt de comprendre comment Allah est Shakur, quelles sont les réactions de foi nécessaires? La première réaction de foi, c'est que le mu'min se soumette au destin de son Seigneur, le destin au qada et le qadr d'Allah Azza wa Jal, et accepte chacune de ses décisions. Quand on a un bienfait, on s'en remet à lui, on remercie. Quand c'est une épreuve, on s'en remet à lui et on fait preuve de patience. Deuxième leçon, ça je pense qu'on a suffisamment développé, c'est clair. Deuxième leçon à retenir, comme Allah il a cette qualité de shakur, reconnaissant, qui accepte peu, qui donne beaucoup, ben le croyant doit devenir shakur également, au niveau humain. On doit être reconnaissant envers notre Seigneur. Le mu'allif dit, « Inna la'abda » من حين استقر في الرحم إلى وقته يتقلب في نعم الله ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا ويقظة ومناما وسرا وعلانية. C'est très long, je m'arrête là. L'auteur dit, alors qui c'est qui écrit ça? Il me semble que ça vient de As-Sa'di, à vérifier. Il dit que le serviteur, depuis le moment où il est dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire avant même qu'il ne vienne au monde, jusqu'à l'instant où il réfléchit, jusqu'à sa mort, il est toujours dans des bienfaits, qu'il en soit conscient ou inconscient. Que ce soit des bienfaits externes ou des bienfaits internes. Et on va voir quelle est la différence entre un bienfait externe et un bienfait qui est interne. Matin et soir. Ouais, il se dit, bienfait le matin, je comprends. Je suis au lycée, j'apprends bien, j'ai de bonnes notes. Bienfait également, Allah me protège du zina. Allah me protège de faire des actions qui sont pas bonnes, et ainsi de suite. Le matin, je comprends les bienfaits. Mais le soir, c'est quoi le bienfait? Mais le soir, avoir un toit, c'est un bienfait. Dormir en sécurité, c'est un bienfait. Dormir, c'est un bienfait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Des gens qui ont besoin de médicaments, d'anxiolytiques, qui ont tellement de soucis, et ainsi de suite. Dormir, c'est un ni'ma. Se réveiller, c'est un ni'ma. Preuve que se réveiller est un ni'ma, Hudhayfa. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est un doigt. Ça, c'est une petite question que j'aime bien poser aux élèves. Quel doigt on lit avant de se réveiller? Ah, ya salihou. Quel doigt on lit avant de se réveiller? Non. Nokman. Il n'y a pas de doigt avant de se réveiller. Avant de se réveiller, on dort. Donc il n'y a pas de doigt. Quel doigt on lit? C'est une question piège. Quel doigt on lit au réveil? La première chose que le mu'min dit quand il ouvre ses yeux, c'est Alhamdulillah. Ce alif lam, ça s'appelle alif lam al-istighraq. qu'on retrouve dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha. Hein, les frères comoriens aiment bien ça. Al-Fatiha, même les Égyptiens aussi. Alif Lam Al-Istighraq. C'est Al bima'na Jami'. Toutes les louanges reviennent à Allah. Alhamdulillah. Et le lam de lillah, c'est khas, ikhtisas. On avait vu ça un petit peu en tafsir dans les cours d'arabe. Lillahi faqat. Toutes les louanges reviennent à Allah, uniquement Allah. Alladhi ahyana. Qui nous a donné la vie. Ba'dama amatana. Après qu'il nous ait accordé cette mort. Le sommeil, c'est la petite mort. Et puis on se rappelle que wa'ilin. Ce qu'on doit retenir, c'est que Laylan wa Naharan, le matin on est dans des bienfaits et le soir on est dans des bienfaits. Maintenant le frère se demande, c'est quoi ton prénom? Sajid, enchanté. Sajid se dit, ben quand Allah me donne plein de choses, enfin les bienfaits, on n'a pas besoin de faire une photo, ben oui, mais quand ça va mal, ça s'appelle quoi? Ben on va dire que quand ça va mal, c'est une épreuve. Et l'épreuve est également un bienfait. Parce que rien ne t'arrive au hasard. Rien ne t'arrive sans qu'il n'y ait un but. L'épreuve, enfin, le bienfait, c'est pour t'accorder de la joie, et on remercie Allah, mais également éprouver l'être humain, comment il réagit face au bienfait. La difficulté, c'est pour voir sa réaction face au destin d'Allah, et s'il est patient, endurant, il a des récompenses, mais également pour racler, enlever, brûler, le débarrasser de ses péchés. Donc, même, c'est pour ça que Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans le Sharh de Riyad al-Salihin, dans le chapitre concernant la patience face aux épreuves, il rappelle que les Sahaba avaient atteint le plus haut degré de foi. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, on va quitter le sujet. Et j'ai oublié de chronométrer depuis combien de temps on fait, je ne sais pas aussi. Il a expliqué qu'il y a 4 catégories de patience face aux épreuves. Je vais droit au but. 4e catégorie, c'est le plus haut degré de foi. Et les Sahaba, eux, avaient atteint ce degré. Mais je vous explique ça dans un siècle privé. Dites ça dans un public ouvert, musulman et réel musulman, ainsi de suite. Ils ne vont pas comprendre. Ça, c'est uniquement la présence, c'est une foi solide qui nous permet de comprendre. C'est-à-dire, même parfois à notre niveau, ça peut être une fitna d'expliquer ça. Les Sahaba avaient atteint un tel degré de patience que lorsqu'ils étaient éprouvés, ils remerciaient Allah pour l'épreuve. Personne qui n'a pas cette perception de la foi veut se dire que quoi? Ils aimaient qu'il leur arrive des difficultés, ce n'est pas cohérent. Ça va à l'encontre de la nature humaine. Mais c'est le spirituel atteint un tel degré qu'il prend le dessus sur le côté humain. Ça, c'est les plus hauts degrés de l'iman. On a du mal, nous, à intégrer ça. C'est quand le sahaba a été prouvé, il sait que Allah m'a choisi pour cette épreuve. Allah a pensé à moi. Allah veut quelque chose pour moi à travers l'épreuve. Et je vais vivre cette épreuve avec dignité et faire preuve de patience et atteindre l'objectif comme Allah l'attend de moi. Et donc il est reconnaissant vers Allah qui lui a envoyé cette épreuve, parce que par ça il y aura une ouverture pour lui. Ça, c'était le plus haut degré de foi que les sahaba avaient atteint. Donc voilà, donc Sajid, à travers l'épreuve également, les difficultés également, c'est un geste qui vient, c'est une bonté, ça émane de la bonté et de la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Donc les bienfaits. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi ya Ali la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Adda ya'uddu, ça veut dire quoi? Compter. Si, le sens du verset, hein, si on essayait de compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ben, il est impossible de les cerner à l'ihsa. On ne pourrait jamais comptabiliser, énumérer, quantifier les bienfaits. Et de quelle façon, parfois, l'être humain, il se rend compte d'un bienfait, et ça, il ne faut pas arriver à cet état-là. Il ne faut pas arriver à ce degré. C'est, لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص إلى آخر الكلام. L'auteur dit, si il y a un moindre manquement, une disparition, Allah protège, ou une diminution dans un des bienfaits, c'est là que l'être humain va se rendre compte que c'était un ni'ma. Quand une personne, Allah protège, nous protège tous, si une personne se casse une jambe, et qu'il doit marcher avec des béquilles, c'est là qu'il va se rendre compte que marcher, c'est un ni'ma. Moi, je me plaignais pour ci, pour ça, mais j'avais jamais réalisé que être autonome, descendre les escaliers de sa maison, venir à la masjid, aller travailler, prendre ma voiture, prendre le bus, aller à la pharmacie, aller à droite, à gauche, tout ça, ce sont des bienfaits. Et quand on perd l'usage d'une jambe ou il y a un plâtre ou le genou est cassé, ou c'est là que l'être humain se rend compte que voilà, c'est un ni'ma. J'avais un ami, enfin, quelqu'un de la masjid, pendant au moins un mois et demi, il avait le bras gauche dans une attelle, un plâtre. Il était comme ça. C'était compliqué. Je me demande comment est-ce que la personne fait pour rester 40, 50 jours immobilisé. Mais, et puis je l'ai vu il y a quelques temps libéré. D'accord, je ne sais pas s'il a chanté la chanson de Reine des Neiges quand on a enlevé le plâtre. Peut-être, je lui ai demandé. Mais c'est là que tu te rends compte que, subhanallah, avoir deux mains, tu peux conduire, tu peux manger, tu peux porter ton enfant, tu revis. Alors que ces deux mains, tu en avais l'usage depuis 30 ans. Yani, l'être humain, c'est dans la nature de l'être humain que de s'endormir et de sombrer parfois de la rafla, de l'insouciance et d'oublier les bienfaits. Donc, ne soyons pas cette personne qui, na'oud billah, attend de perdre un bienfait pour s'en rendre compte. La solution, c'est quoi? C'est de faire preuve de choukr, de reconnaissance. Et être conscient, ça c'est important, qu'il n'y aura jamais un équilibre entre mes bonnes actions et l'objectif qu'on doit atteindre en termes de reconnaissance. Il n'y a que jamais il faut se dire que j'ai atteint tel degré de foi et de pratique de dîn, parce que j'en fais tellement, que maintenant, certainement, je suis reconnaissant pour tout ce qu'Allah m'a accordé, aucunement. Vous savez, là c'est un peu complexe, on fait un parallèle. Il y a un niveau de reconnaissance en deux créatures qui ne pourra jamais atteindre son objectif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un exemple. Bon, c'est pas assez précis ce que je dis. Un homme portait sa maman sur son dos en accomplissant le tawaf. Et un sahaba, je crois que c'est un hadith, hein. Il faut que je revoie. Est-ce que c'est un sahaba qui avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quelqu'un avait demandé à un sahaba? Il me semble que c'est un hadith. Il demandait au prophète d'Allah, est-ce que cet homme-là, il a été reconnaissant vers sa maman maintenant? Est-ce qu'on peut l'appeler un fils reconnaissant? Parce qu'il a porté sa maman, fait les sept tours tawaf et tout. Le prophète m'a dit qu'il n'a rien fait encore de suffisant pour compenser les premières douleurs de l'accouchement que sa maman a ressenti. C'est-à-dire que un fils c'est 17 ans, 18 ans, 25, 50, mashallah. Tant que la maman est vivante, on est fils et ou fille hein, de sa maman, d'accord? Et tant que jusqu'à notre mort, on pourra être de le khidma de notre maman, ben on n'aura jamais fait tout ce qu'il faut pour être reconnaissant. Mais il faut faire l'effort. Et il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien négliger. Si tu as négligé, je sors du sujet, mais ça reste important. Celui qui a négligé son papa ou sa maman, même si il était le premier arrivé à la masjid le matin à 4h, et qu'il est toujours au premier rang, et qu'il lit, il fait un khatm al-Qur'an tous les 3 jours, il a raté sa vie. Il a raté sa vie. Parce que personne n'accède au paradis avec le mécontentement des parents. C'est-à-dire, personne n'accède au paradis sans le contentement des parents. Donc, oui, ça c'était le parallèle. C'est-à-dire, dans les rapports entre êtres humains, un enfant ne pourra jamais être 100% reconnaissant envers sa maman. On prend le qiyas, l'analogie, un serviteur ne saura jamais être reconnaissant réellement envers Allah, Rabbul Izzah, parce qu'il y a tellement de ni'ama, il y a tellement de bienfaits, qu'on ne pourra jamais les énumérer, ni remercier Allah pour tout ça. Et on va clôturer par une lecture du matin, du texte. Et ça c'est d'As-Sa'di, ça c'est du très beau As-Sa'di, dans Taysir al-Karim al-Rahman, il dit « فَيَنْبَغِي عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا » Le serviteur se doit d'être un serviteur reconnaissant. « يَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى وَافِرِ نِعَمِ » Il doit être reconnaissant vers Allah pour tous les bienfaits. « وَجَمِيلِ إِحْسَانِ » Et toutes les bienfaisances qui viennent d'Allah Azza wa Jal. وَيُبَالِغُ فِي الشُّكْرِ Il doit augmenter et presque exagérer ses remerciements vers Allah. عَلَى النِّعَمِ الدُّنْيَوِيَّ Pour les bienfaits de ce dunya. C'est ce qu'on appelait les bienfaits externes. Quels sont les bienfaits externes? كَصِحَّةِ Non, il dit كَصِحَّةِ الْجِسْمِ Avoir un corps, mashallah, qui répond aux besoins, être en bonne santé. وَعَافِيَةِ D'être protégé des maladies, par exemple. وَحُصُولِ الرِّزْقِ Et le fait d'avoir sa subsistance. Tout ce qu'il y a d'extérieur, ben, ça, ce sont des bienfaits. Mais également pour النِعَمِ الدِّينِيَّ Et c'est là que des fois on oublie. Quand on demande à des élèves, citez-moi les bienfaits. Il va dire que les bienfaits, c'est la santé, c'est avoir des parents, c'est avoir une voiture, c'est avoir la PlayStation. C'est quoi la dernière qui est sortie là? PlayStation combien? 5? 7? 7? 4? Ça va trop vite là. La PlayStation 4, il va dire que le bienfait, c'est d'avoir un monnaie de poche, c'est d'avoir à manger. Bref, sahih. Tout ça, ce sont des bienfaits. Mais là, on ne parle que des ni'am dunyawiyya, externes, du dunya. Les bienfaits internes, c'est ce qu'Allah te donne avant tout, c'est al-iman, la foi. At-tawfiq lil-ikhlas, quand Allah donne à un serviteur la sincérité dans son cœur. Que quand il accomplit des actions, il les accomplit pour et uniquement pour Allah. Ça, c'est un grand bienfait. D'être protégé de l'ostentation. D'être protégé de l'hypocrisie. Il y a des gens qui ont ces maladies spirituelles en eux. Et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Mais quand Allah t'accorde l'ikhlas, c'est un grand ni'ma. Wa taqwa, quand Allah t'accorde la piété, c'est un grand bienfait. Bal ni'amu dini, hiya ni'amu ala al-haqiqati. Et il conclut, et on va s'arrêter là, les bienfaits spirituels, les bienfaits internes, ce sont les vrais bienfaits. Les vrais bienfaits, c'est la foi, c'est la piété, c'est la sincérité. C'est, après, le cheikh n'a pas tout cité, c'est al-istiqama, la fermeté. Le fait de venir régulièrement à la salah, de faire les actions de façon constante. Tout ça, ce sont des bienfaits. Et même pour ça, on doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Quand Allah te donne tawfiq de prendre ton Coran, de le poser et de lire. Quand Allah te donne tawfiq de demander istighfar. Et à ila ghayri dhalik. Donc tout ça, ce sont des ni'ma et des bienfaits. Qu'Allah, dans sa clémence, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles. Et qu'Allah remplisse nos cœurs de sincérité, d'amour pour lui. Et que nous soyons des serviteurs obéissants et reconnaissants. Et on s'arrête là, et la prochaine fois, on verra les catégories de shukr que l'auteur a citées. Premièrement, ashukru bil qalbi, la reconnaissance par le cœur. Et on avait introduit un peu ça le mois dernier, on avait dit que c'est vraiment ce qui nous manque. Nous, on a ashukru bil lisan, on remercie Allah, on dit, mais il nous manque la reconnaissance intérieure pour les bienfaits. C'est ce qu'on essaiera, inshallah, de développer la dans deux semaines. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khairan.